signe des temps, Marc Wetzmann.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Disponible depuis peu sur Netflix et rediffusé ces jours-ci par Arte, le documentaire de Raoul Peck, I Am Not Your Negro, met en image un texte de l'écrivain américain James Baldwin et se penche sur l'histoire du mouvement des droits civiques des années 60 aux États-Unis. Il faut voir ce film en ce moment, d'abord parce que c'est une bonne introduction au livre de Baldwin et aussi parce qu'il éclaire ce qui se passe aux USA depuis le 25 mai dernier. Le meurtre de George Floyd par le policier Derek Chauvin et ses trois collègues ce jour-là et les premières images d'émeutes qui ont suivi ont provoqué de ce côté-ci de la Atlantique en France, des réactions à l'emporte-pièce. Les conservateurs se sont frottés les mains face à l'effondrement du fameux modèle multiculturel américain responsable selon eux de tous les maux, et les progressistes, ou ceux qui passent pour tels, ont sauté de joie en entonnant l'hymne des Black Panthers. Depuis, malheureusement, si la force des manifestations ne faiblit pas, leur forme a changé. Les émeutiers ont été maîtrisés pour la plupart par les manifestants et une forme de joie est perceptible dans les cortèges où l'on ne trouve nulle trace des fameux Black Panthers. Question, si le fameux modèle culturel américain, loin de s'effondrer, était au contraire en train de naître sous nos yeux, ou de renaître en tout cas. Si ce à quoi l'on assiste depuis le 25 mai dernier, loin d'être le signe d'une révolution mondiale, était l'accouchement difficile d'un pays qui se cherche, tente de renouer avec lui-même. C'est ce que l'on va essayer de creuser avec, pour perspective, le documentaire sur James Baldwin, « I am not your Negro ». Et pour en parler avec nous aujourd'hui, Kaya McGlover, bonjour.
Bonjour Marc.
Vous êtes professeur de littérature francophone à Columbia, auteur de un défi spiraliste au canon postcolonial, qui est une étude sur la littérature, le mouvement spiraliste haïtien. Et vous avez déjà été invité deux fois dans cette émission. Henri Gabart, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à Slate, vous êtes spécialiste de l'urbanisme et de l'architecture, auteur de plusieurs articles sur Minneapolis, où tout a commencé. Et Scott Sayer, enfin bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste indépendant, collaborateur régulier du New York Times, de The Atlantic et du New Yorker, et vous êtes basé à Paris.
Listen, mic check, mic check.
Mic check, mic check.
Do you see?
All these cops
around us,
they are not
getting us
because
of Sergeant
Inspector
Nickus.
Voilà, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais qu'on entende le son de ce tweet qui a été posté hier soir avec des images qui se passent 3 heures après le couvre-feu à New York. Et ce qu'on entend, c'est le porte-voix qui est un jeune homme noir qui expliquant que les flics n'arrêtent pas les manifestants grâce à la présence du sergent Nickus, à qui il vient de serrer la main. Il parle en fait devant lui, il déchiffre son nom sur son badge et les deux hommes finissent bras dessus, défilant ensemble. C'est une de ces scènes improvisées qu'on voit depuis quelques jours. Il y en a d'autres qu'on voit sur Twitter, comme ces membres de la garde nationale qui sont mis à danser avec des manifestants juste avant le couvre-feu, ou le couple noir qui s'est marié hier en plein cortège de manifestations à Philadelphie. On est très loin de l'atmosphère des premiers jours, d'une part, et de la façon dont les choses sont traduites ici. Même si à côté de ça, on a vu évidemment des images de violence et de brutalité. Hein. On a aussi les policiers à Washington filmés en train de garder la Maison Blanche en tenue anti-émeute, sans badge, ni insigne, ni rien pour indiquer qui ils sont, qui se tweet passé ce matin. Et Scott Sayer, je voulais commencer par vous. Quand on a discuté avant de vous préparer cette émission, vous me parliez de la fausse proximité qu'on a pour les États-Unis quand on est ici, quand on est en France ou quand on est en Europe. On pense qu'on connaît le pays, on comprend ce qui se passe et en fait on ne comprend pas. Les scènes qu'on vient de parler sont impossibles ici.
Effectivement, je pense que c'est une espèce de confusion et une volonté de projection qu'on peut avoir pour n'importe quel pays. Moi, j'ai longtemps vécu en France et effectivement, en vivant ici, j'avais souvent le sentiment qu'on ne comprenait rien du tout de ce qui se passait chez moi. Mm-hmm. Parce que c'est une histoire très différente. C'est un rapport à la manifestation qui est très différente, c'est un rapport à la police qui est différente, c'est un rapport à la, aux questions raciales et d'égalité sociale qui est très différente. Et je pense que je pense que ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis est d'une complexité extrême, c'est le moins qu'on puisse dire, et essayer de calquer la situation américaine sur la situation française, même pour parler des violences policières, je pense c'est aller un peu vite en besogne. Je pense qu'il y a des injustices, des niveaux d'injustice aux États-Unis qui ne sont pas égalés par ce qu'on peut observer en France, même s'il y a évidemment des relents similaires, enfin des similitudes.
Oui, bien sûr.
Mais effectivement, c'est une. Je pense que ceux qui prétendent comprendre ce qui est en train de naître aujourd'hui ont un peu trop de prétentions intellectuelles.
Alors c'est tout ça nous sert d'introduction au film qui jette une lumière sur ce qui se passe aujourd'hui. I'm Not Your Negro est donc le film de Raoul Peck qui raconte un épisode de la vie de James Baldwin qui se passe en juin 79. James Baldwin, alors âgé de 55 ans, a le projet d'un livre intitulé Remember This House, dans lequel il entend raconter une histoire de l'Amérique à travers les portraits de trois de ses amis assassinés, Medgar Evers, Martin Luther King et Malcolm X. Il écrira jamais le livre, il n'en existe aujourd'hui qu'une trentaine de pages, mais ça dessine en creux à la fois un portrait de ces trois personnes, dont nous, Français, on connaît surtout les deux derniers, on connaît surtout Martin Luther King et Malcolm X, et aussi ça dessine le portrait des luttes, ça évoque les luttes des droits civiques de ces années-là. Kayama Glover, vous connaissez le film, bien sûr?
Oui, bien sûr, je l'ai vu plusieurs fois.
Comment est-ce qu'il éclaire, à votre avis, la situation actuelle, ce film?
Eh ben, pour moi, enfin, en plus du fait que ça nous montre, enfin, ça nous démontre l'histoire d'un moment important dans l'histoire américaine, plus important encore pour le moment actuel, c'est le fait que ça nous donne une continuation de cette lutte qui se manifeste aujourd'hui, en nous refusant toute rhétorique de choc, toute rhétorique d'innocence ou de surprise vis-à-vis de ce qui est arrivé dans les derniers jours, dans les dernières années, etc. Donc ça nous permet de voir que ce phénomène, ce projet, si on peut dire, de suprématie blanche, est quelque chose qui est très cohérente et qui n'est pas ponctuel. Donc c'est quelque chose, dans tout ce qui se passe aujourd'hui, on doit regarder en arrière pour voir justement que même en dehors du spectaculaire, des moments, comme j'ai dit, ponctuels de violence, de racisme, on a une fondation nationale, un ADN national qui permet ce genre de violence anti-black.
Mais en même temps, le film est complexe. Enfin, c'est Baldwin qui est complexe parce que Baldwin se définit. Il dit je ne suis jamais devenu un Black Panther parce que je ne prenais pas tous les blancs pour des diables. Je ne voulais pas que les jeunes noirs le fassent. Je n'ai pas devenu non plus un Black musulman. Il est membre d'aucune église. Il n'a même pas adhéré à la NAACP, le mouvement pour les droits civiques. Il se veut comme témoin de l'histoire. Il veut pouvoir, dit-il, se déplacer aussi souvent et aussi librement que possible pour écrire l'histoire. Et un de ses positionnements, c'est la manière dont il se définit par rapport à ce qu'il appelle les visages américains, c'est-à-dire sa prise de conscience quand il voit à Paris, quand il voit sur un kiosque le visage de Dorothy Counts, 15 ans, qui essaie d'entrer à l'école à Charlotte, en Caroline du Nord. Il voit sa photo au moment des premières émeutes sur les kiosques du boulevard Saint-Germain, où il est. Et puis les visages de Gary Cooper et John Wayne. Et il dit c'est un choc de réaliser que l'Indien c'est vous alors que vous êtes identifié à Gary Cooper. C'est-à-dire, le pays natal auquel vous devez votre identité n'a pas fait de place pour vous. Mais en même temps, il se définit comme américain.
Oui, en effet. Donc, ce qui est fascinant avec l'œuvre de Baldwin, mais aussi, enfin, le film en particulier, c'est justement que ça témoigne de la diversité des positionnements, de la démographie américaine, et donc la diversité des positionnements vis-à-vis de la lutte pour la justice et l'égalité dans ce pays, enfin, la promesse américaine. Baldwin, le fait de ne pas s'aligner avec un groupe spécifique, ça avait beaucoup à voir avec le fait que même au sein des groupes marginalisés aux États-Unis, il y a aussi une certaine diversité, une distinction de classe, mm-hmm. distinction de géographie. Notre pays est énorme et divers au niveau politique, social, etc. Ce qui fait qu'on ne peut pas dire que la couleur de la peau ou l'origine ethnique va indiquer un positionnement politique. Mm-hmm. Alors pour Baldwin, en tant que témoin, il voulait montrer justement qu'il y a non seulement conflit entre noir et blanc, mais il y a conflit idéologique qui dépasse les frontières raciales aussi. Oui. Ce qui est différent, je dirais.
Oui, oui. Non, allez-y.
Allô? Oui. Non, j'allais tout simplement dire qu'une grande différence pour moi entre ce qui se passait dans les années 60 et ce qui se passe maintenant, c'est que cette diversité est beaucoup plus visible dans les manifestations actuelles. C'est-à-dire que dans les années 68, bien évidemment, on a vu des gens, à part des Noirs dans la rue qui manifestaient, mais c'était plus par des Noirs. Alors que là, on voit toutes sortes de visages, on voit largement à force d'un engagement conflictuel avec le président face à la pandémie, on voit des blancs ici qui sont aussi investis pour la première fois, aussi éveillés, si on peut dire, à l'injustice qu'avant, peut-être.
Voilà. Alors je voudrais qu'on écoute un extrait de ce que dit James Baldwin.
Forget the Negro problem. Don't write any voting acts. We had that, it's called the 15th Amendment. During the Civil Rights Bill of 1964, what you had to look at is what is happening in this country. And what is really happening is a brother has murdered brother knowing it was his brother. White men have lynched Negroes knowing them to be their sons. White women have had Negroes burned knowing them to be their lovers. It is not a racial problem. It's a problem whether or not you're willing to look at your life and be responsible for it and then begin to change it.
Voilà, alors je traduis rapidement. Il dit « oubliez le problème noir ». Ce qui compte, c'est l'état du pays, que des hommes qui tuent leurs frères en sachant que c'est leurs frères, des pères qui ont tué des noirs en sachant que c'était les leurs, des enfants en sachant que c'était les leurs, des femmes qui ont fait brûler des noirs qui étaient leurs amants. Ce n'est pas un problème racial, c'est le problème de regarder sa vie en face, de prendre ses responsabilités et de décider de la changer. Et il continue en disant, nous, il parle du peuple américain, devons accepter l'idée, comme j'essaie de le faire par exemple, que nos ancêtres sont blancs et noirs et que nous essayons de forger une nouvelle identité. Et ça fait écho à la dernière phrase de Chronique d'un pays natal où il dit c'est précisément cette expérience noir-blanc qui pourrait se révéler pour nous, Américains, d'une valeur indispensable dans le monde que nous affrontons aujourd'hui. Ce monde n'est plus blanc et il ne le sera plus jamais. Kanye McGlover, un commentaire.
Oui, c'est extrêmement provocateur. Bien évidemment, il faut... C'est une remarque qui est pleine d'optimisme, je dirais.
Oui.
Dans le sens où on n'est pas du tout sur le bord de l'avènement de la société post-raciale où on se reconnaît tous comme frères, on voit plus la couleur de peau, où on se dit qu'on appartient tous à la race humaine, à l'espèce humaine, etc. Je pense que Baldwin, c'était aspirationnel dans un certain sens. Je me rappelle plus de l'audience devant laquelle il parlait en disant cela, mais peut-être, je voudrais insister sur le fait que avant d'arriver à ce sentiment d'harmonie entre frères aux États-Unis, et j'ai beaucoup apprécié ta question, la façon dont tu as posé la question au début, dans l'introduction, est-ce qu'on est dans le moment d'une renaissance ou bien une naissance du projet multiculturel américain? Je veux bien embrasser cet optimisme, mais en même temps, je pense absolument que ce moment exige une reconnaissance de la spécificité de la réalité pour les Noirs américains.
Ah bah bien sûr, non mais bien sûr, il s'agit pas
donc, de... Enfin la question de race n'est pas dépassée du tout, et donc même dans les discours, même dans la diversité, comme je disais tout à l'heure, des manifestants, une solidarité américaine, progressiste américaine, il faut que cette solidarité soit pour le soutien de l'expérience de l'homme et de la femme noire dans le pays. C'est pas une question de transformer la société de manière diffuse, c'est faire attention aux problèmes de l'afro-américain dans ce pays.
What you gonna do, girl? What you gonna do? What you gonna do, girl? What we gonna do? I feel the need to justify, to call a name. Whoa. women crying, another man gone, locked in jail, not convicted, just can't pay the bail, and I'm alone, and I'm alone. Can't you hear widows cry, another man gone, another man gone, who wouldn't be a slave, shot and gone to his grave.
Une des questions qui peut se poser, c'est de savoir si cette expérience noir-blanc que James Baldwin appelle de ses voeux et n'est pas, c'est de savoir s'il n'anticipe pas finalement sur ce qui est en train de se passer en ce moment, puisqu'effectivement, les manifestations, comme le disait Kayama Glover et comme le fait remarquer aussi George Packer dans un article publié le juin dans The Atlantic ce week-end, pour la première fois depuis les années 50, un nombre impressionnant de protestataires blancs se joint aux manifestants. Henri Gabart, vous êtes journaliste, vous avez travaillé sur Minneapolis, et une des questions qui se pose, c'est de savoir qui manifeste. Comment est-ce que d'abord, quelle est la communauté noire, l'épicentre, là où ça a commencé? À quoi ressemble la communauté noire de Minneapolis et à quoi ressemble Minneapolis?
Minneapolis, d'abord, c'est la chose la plus importante de comprendre, c'est que l'inégalité de revenus entre la population noire et la population blanche à Minneapolis, c'est plus grande que dans toutes les autres villes des États-Unis, sauf Milwaukee, je pense. Donc, c'est-à-dire que c'est une ville où existe une grande inégalité entre les 100 villes les plus grandes des États-Unis. Je pense que l'inégalité d'accès à la propriété entre blancs et noirs est plus grande à Minneapolis que partout ailleurs, sauf deux villes. Donc, c'est-à-dire que la population noire à Minneapolis a resté très pauvre malgré la réputation de la ville comme une sorte de une ville très progressiste, une réputation qui existe aussi pour l'État de Minnesota. Donc, on appelle ça le Minnesota Paradox, le fait que l'État et la plus grande ville de l'État sont très progressistes, mais en même temps, ils ont des populations qui, pour laquelle ou pour lesquelles la situation n'a pas beaucoup changé depuis des décennies.
Vous m'avez dit, quand on préparait l'émission, vous m'avez dit la ville a évité les révoltes des années 60. Elle est restée blanche, d'une part, le centre-ville est resté blanche, les riches sont restés, donc le gap est plus important qu'ailleurs entre la richesse des blancs et la pauvreté des noirs. Et elle n'a pas connu les manifestations des années 60, ce qui fait que l'héritage de la ségrégation est très présent dans la ville.
Oui, en fait, Marc, après avoir parlé avec vous, j'ai recherché un peu. Oui. J'ai vu qu'en fait, il y avait des émeutes en 1967 à Minneapolis, mais ils se sont pas enregistrés sur l'imaginaire national comme celle de, par exemple, de Detroit, de Newark, de Oakland ou de Harlem. Et je pense que c'est parce que la population là était si petite en comparaison avec, par exemple, Chicago. C'est vrai que il est resté une question. Je pense que, en fait, on peut dire même que la réputation progressiste de la ville, ça reste comme ça parce que ils ont pu éviter les questions raciales que les villes plus diverses, c'est-à-dire New York City, Chicago, Los Angeles, ont confrontées il y a 50 ans. Donc maintenant, peut-être c'est le moment enfin pour Minneapolis de voir ces choses. Je sais pas si vous savez, il y a une équipe de baseball à Minneapolis qui s'appelle The Twins. Ils ont déménagé à Minneapolis en 1961. Ils sont venus de Washington et leur patron, il s'appelait Calvin Griffith, il a dit qu'ils sont venus à Minnesota parce qu'il y avait si peu de Noirs là.
Ah oui. Oui, c'est significatif quand même. Une des autres questions qu'on se pose quand même, et là je pose la question à tous les trois, pourquoi est-ce que les manifestations ont pris comme ça dans tout le pays? Pourquoi maintenant? Quand on préparait l'émission, Henri Gabart, vous me disiez, mais parce que presque personne ne travaille du fait de la pandémie, il y a pratiquement rien à faire. En 2014, les gens devaient choisir entre boire un verre et manifester. Les gens sont complètement désœuvrés. Mais est-ce que c'est la seule explication? Est-ce qu'il n'y a pas aussi le résultat de la tension politique de ces trois dernières années qui explose maintenant?
Oui, je pense que c'est vrai. J'allais dire une chose qui m'a frappé en regardant le film de Baldwin, c'est qu'il parle si souvent aux groupes très blanches. Donc, c'est-à-dire qu'il est devenu une sorte de traducteur pour les Américains blancs, pour leur décrire les problèmes qui existent, la réalité qui existe pour les Américains noirs. Mm-hmm. Donc, si vous faites la comparaison avec les manifs qui ont eu lieu dans, par exemple, à 2014, 2015, on voit le changement qui a été rapporté, même depuis 5 ans, par la présence de vidéos partout. Oui. Partout. On a des vidéos de la violence policière. On voit que, en fait, c'est facile, même pour les blancs un peu conservateurs, de voir que la discrimination dont on leur a parlé, ça existe, c'est partout. On peut voir qu'ils sont nouvellement convaincus, ça existe dans les sondages, vous pouvez voir. Et on a maintenant des petits villages, même à Texas, dans la banlieue riche de St. Louis, de Baltimore, où vous voyez des manifs quasiment totalement blancs qui montrent que vraiment il y a une nouvelle connaissance de ces affaires.
Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose de particulier à la présence même de Trump à la Maison Blanche, c'est-à-dire George Packer, le journaliste George Packer dans The Atlantic dit notre président est un des émeutiers. C'est une phrase assez intéressante, Scott Sayer, sur ce point.
Oui, enfin, il souffle sur les braises et profite de toute situation qui se présente à lui pour poursuivre ses envies et poursuivre la politique qu'il essaie de mener. Moi, je te rejoins, Marc. Je pense que la présence de Donald Trump joue profondément dans ce qui se passe aujourd'hui. Je pense que ça, s'il y a un effet positif qu'on peut reconnaître à sa présidence, c'est la politisation de la population américaine, y compris les membres de la gauche plus ou moins apaisés, qui, pour la première fois dans leur vie, pour un certain nombre, se sentent directement concernés par ce qui se passe sur le plan politique tous les jours, qui n'ont pas d'échappatoire pour leurs envies politiques, pour leur sentiment d'injustice. Et je pense que d'une certaine façon, l'injustice concernant les violences policières sont tellement criantes que ça devient insupportable. Et je pense que là, cet épisode, enfin le meurtre de George Floyd, a tout simplement fait péter quelque chose qui mentait, mais qui n'était pas, comme tu dis, qui n'était pas dû uniquement à une réflexion sur la question raciale aux États-Unis, c'est beaucoup plus global. Et donc, je pense que Trump aura, paradoxalement, enfin j'espère, aura contribué à faire avancer la cause de la justice, justice raciale en l'occurrence. Alors que ce n'est absolument pas son intention, je pense.
Oui, c'est tout le paradoxe parce que il n'y a pas eu moins de problèmes raciaux avec la police, notamment à l'époque d'Obama. Mais là, soudainement, quelque chose semble vouloir bouger. Kanyama Glover, sur ce paradoxe d'une part.
Oui, c'est paradoxe. Enfin, d'abord, je dirais que La question d'avoir la vidéo de ce qui est arrivé à George Floyd, ça a été, l'étincelle qui a peut-être allumé les manifestations à ce moment-là, mais ça répond pas forcément à la question de pourquoi maintenant et pourquoi partout. Hein. Mm-hmm. Et pour cela, je pense qu'il y a deux autres choses qu'il faut prendre en compte. Enfin, d'abord, le fait qu'on a eu des vidéos avant cela, on a eu des preuves déjà. On a vu Rodney King, on a vu Tamir Rice, on a vu Philando Castile, on a vu Walter Scott, etc. Donc c'est pas la première fois qu'on voit de nos deux yeux la violence anti-noire, ce qui se passe devant nous dans nos petits écrans et nos grands écrans. Donc ça peut pas être seulement ça. Fournir les preuves ne change pas suffisamment les réalités. On avait les vidéos des années 60 aussi, donc. Mais je pense que peut-être, et ça rejoint ce que vient de dire Henri Graeber, je pense, c'est Trump malgré lui. C'est-à-dire que, et on en a discuté Marc déjà, mais le fait que depuis 2016, il y a espèce d'une, je dirais une espèce de gueule de bois progressiste. On est rentré pour moi dans une dépression nationale du côté de la gauche, des progressistes.
Oui.
Un sentiment d'impuissance vis-à-vis de Trump, qui s'aligne au cycle des élections fédérales. Donc, il n'y a rien à faire jusqu'en novembre 2020. On est impuissant. Trump fait tout et n'importe quoi. On n'arrive pas à le déstabiliser. Alors que là, avec ces manifestations qui se passent, comme on a bien dit, on a l'espace et le temps de manifester. Les gens ne sont pas distraits par d'autres choses, la vie quotidienne, à cause de la pandémie. Mais le fait que ces sentiments d'impuissance peuvent être remplacés par une capacité d'agir, d'agir dans l'espace local, d'agir dans le moment présent, de faire des changements ponctuels et radicaux actuellement, je pense que ça, c'est différent. Les gens vont voir leur capacité de faire autre chose que se plaigner de Trump, finalement.
Oui, oui. Ouais. Alors c'est une des choses qui c'est pas seulement la variété ethnique qui frappe dans les manifestations, c'est aussi ce qu'on a l'impression de voir de la variété sociale. On a l'impression que pour une fois c'est pas seulement les élites cultivées qui manifestent, mais il y a un peu tout le monde, quoi, à commencer par la famille de George Floyd. C'est des manifestations qui semblent, en tout cas vu d'ici, réellement populaire en ce sens. Beaucoup de classes sociales, en tout cas, sont réunies. Je ne sais pas qui veut répondre à ça. Ou qui veut commenter.
Moi, je vous en prie, Kaïma.
Non, mais c'était juste pour dire très rapidement, c'était pas grand-chose, juste pour mettre l'emphase sur ce que, je sais pas qui l'avait dit déjà, mais faire le choix entre aller boire un verre et aller dans la rue pour manifester, on est beaucoup plus tenté à suivre nos instincts qui sont toujours là. Hein. Mm-hmm. On est là dans nos appartements dans les temps normaux, on se dit, ah ben oui, c'est vrai, il faudrait que je fasse quelque chose, oui, c'est vrai, c'est injuste, j'ai été horrifiée, on parle de cela dans nos salons avec nos amis, etc. Mais là, on va pas dans les dinner parties, on va pas au restaurant, on n'a pas d'autres échappatoires pour exprimer notre rage, notre méconfort, etc. Alors, tant qu'à sortir, tant que rejoindre une communauté qu'on n'a pas vue depuis des semaines déjà, pour dire, j'appartiens toujours à cette communauté, et en plus, pour une fois, je peux faire un lien direct entre ce que je me dis tous les jours comme ça, et ce que je fais de ma journée.
Qui est-ce qui voulait prendre la parole? C'est des Scott Sayer?
Oui, je voulais rebondir sur ce que tu avais dit, sur la diversité de ces manifestants et de ces manifestations. Effectivement, je t'en rejoins à 100%. Il y a une grande diversité qui est assez nouvelle. Il y a une diversité qui, je pense, passe un peu plus inaperçue du côté français. C'est la diversité idéologique.
Oui.
Et la diversité d'idées. Et ce que je voudrais souligner, c'est que, à mon sens, l'une des incertitudes de ces manifestations, de ce moment, c'est dans les buts. C'est-à-dire, il y a une vraie diversité, je pense, de buts chez les manifestants. Et là, ça rejoint le film de Raoul Peck. Il y en a. parmi les manifestants qui veulent, par exemple aujourd'hui on est en train de parler de l'abolition ou non de la police aux États-Unis. Mm-hmm. Et il y a des gens qui prennent position pour dire, d'ailleurs il y a une vidéo qui circule sur Twitter du maire de Minneapolis, je pense que ça s'est passé hier, qui a refusé de dire dans une manifestation qu'il acceptait l'abolition de la police immédiate. Et il s'est fait huer et il s'est fait jeter de la manifestation. Donc il y a des gens qui prônent ça, il y a des gens qui prônent autre chose évidemment. Il y a des gens qui prônent, je pense comme prônait Baldwin dans son optimisme qu'on a décrit tout à l'heure, une société de justice pour tout le monde. Je pense qu'il y en a qui prônent ça évidemment aujourd'hui. Il y en a qui prônent une sorte de justice, de rétribution, c'est très présent aussi. Bref, il y a une vraie diversité, il y a un vrai débat entre gens de bonne foi qui voient les mêmes injustices, mais qui ne sont pas tout à fait sur la même ligne sur comment répondre et sur le projet éventuel. Mmh.
Alors, sur cette diversité de buts et sur cette diversité de regards, il y a deux visions là en ce moment qui s'opposent vraiment. Il y a celle de Pam Ndiaye ce week-end dans Le Monde. Pam Ndiaye qui est français et universitaire, les deux éléments sont importants, qui dit que l'Amérique qui défile, c'est l'Amérique évidemment opposée à Trump qui est dans la rue, qui se trouve être celle des grandes métropoles et des villes universitaires moyennes qui ont voté massivement pour Hillary Clinton en novembre 2016. Il y a aussi la carte des manifestations actuelles et celles des universités sont similaires. Certains des lycéens les plus mobilisés sont ceux qui organisaient l'année dernière des manifestations en faveur du climat. Donc Greta Thunberg les a mobilisés, George Floyd aussi. Et puis il y a la vision beaucoup plus ambivalente qu'offre George Packer dans The Atlantic, dans l'article que j'ai déjà cité de The Atlantic, où il dit que il faut comprendre les manifestations en regard du vide institutionnel et idéologique et politique qu'a installé Trump. Les manifestations doivent être comprises dans le contexte de ce vide institutionnel, écrit-il. Quelques figures publiques ont avancé des propositions pour changer l'état d'esprit de la police. Terrence Floyd, le frère de la victime, a intimé aux émeutiers de s'éduquer et aller voter. Mais le message largement dominant des manifestations se limite à exiger la fin du racisme, ce qui reviendrait à éliminer le mal lui-même. Pour les manifestants blancs, cette exigence signifie chasser le mal qui se trouve en eux. Et on a vu certaines des vidéos où des blancs s'agenouillent pour demander pardon de leur white privilege. Ce serait un signe supplémentaire de faiblesse démocratique, écrit George Packer, si au lendemain de ces manifestations, l'essentiel de l'énergie devait aller à des sessions de petits groupes centrées sur le privilège blanc plutôt que vers des réformes des pratiques policières et d'autres réformes de la société américaine. Alors, chacun à votre tour, comment vous analysez ces deux visions, Henri Gabart qui n'a pas dit grand-chose depuis tout à l'heure, D'abord, est-ce que ça, vous rangez plutôt du côté de Packer ou du côté de Pam Dyer dans cette vision des choses?
Je pense que je suis de côté de Packer, mais c'est compliqué parce que dans les manifs, on n'a pas vu grande chose contre Trump spécifiquement.
Oui.
Mais je pense que c'est quand même vrai que tout le monde est un peu bon, on a eu marre avec ce président et la façon dont il parle de tout. Mmh. Je pense qu'il y a une possibilité que des manifs comme ça peuvent exister sous Trump dans une manière où ils pouvaient pas exister sous Obama. C'est-à-dire que Trump, parce que il est un peu où il se voit comme autocrate, il permet une type d'espace pour des gens qui en général auraient été un peu sceptiques de ce sort de manif. Mmh. Et je pense que la légitimité a été démontrée déjà par les réponses brutales des forces de l'ordre. Donc, mmh, ça vaut la peine de dire que c'est une sorte de... Bon, depuis la semaine que les manifs ont commencé, on voit que les choses ont évolué un peu.
Oui.
On voit les gens qui joignent parce qu'ils voient que, en fait, c'est vrai que ce que Kayana a dit, que le vidéo existe depuis toujours, mais les scènes de violence policière qu'on a vues juste dans les dernières 7 jours, je pense que ça a frappé beaucoup de gens.
Mmh, mmh. Kayana Glover, justement, sur ce débat que je crée toute pièce d'ailleurs, hein, parce qu'il ne se parle pas entre Pam et Guy ici.
En effet, on voit ce que t'as fait,
là, Marc. George Packer, quelle est ta vision des choses? Enfin, tu tranches plutôt du côté de Pam Dyer ou de George Packer, qui est plus pessimiste?
Plutôt pessimiste, je dois dire. À certains égards, moi, j'ai parlé de mon optimisme à certains égards aussi tout à l'heure. Peut-être, je rajouterais deux choses. Enfin, la question de la vide institutionnelle qui a été créée par notre président actuel, ce n'est pas forcément vrai que tout le monde en a marre. J'ai vu à mon chagrin ce matin sur Twitter les gens qui sont sortis à Maine justement pour soutenir ou applaudir Trump qui leur rend visite aujourd'hui. Donc il y a toujours une forte, enfin il y a quand même, c'est pas aussi noir, enfin c'est, j'allais dire, c'est pas aussi noir et blanc, c'est pas aussi clair que ça que Trump déçoit tout le monde.
Ah, oui.
Mais par contre, je crois que ce qui est vrai et ce qui n'est pas forcément discutable, c'est le fait que Trump n'a fait aucun effort aujourd'hui ni dans le passé récent à unir le pays, c'est-à-dire qu'il s'est ancré dans la division, dans la désunification. Donc il y a, enfin tout le monde peut voir ça assez clairement, et je pense donc qu'on a des gens qui même reconnaissent que c'est un moment pour chercher de l'unité. Mmh. Et ça c'est un peu la suite de la pandémie. Donc il y a un esprit de corps qui s'est créé par cette maladie qui touche à tout le monde, beaucoup plus aux Afro-Américains, c'est clair, mais néanmoins qui fait peur à tout le monde, qui fait que nous sommes dans on est un peu plus porté vers la possibilité d'agir collectivement. Donc il y a ça qui va tout à fait à l'encontre de l'idéologie qui sort de la Maison Blanche. Donc il y a ça. Deuxièmement, cette question de vide institutionnel, on peut la considérer aussi vis-à-vis de l'autre problématique qu'a été mentionnée par Scott Sawyer, notamment l'absence de cible claire. Si on pourrait dire que dans les années 60, la cible des protestations, des manifestations, c'était un racisme qui était ancré dans la loi, qui était ancré dans les pratiques sociaux.
Oui,
ségrégation, c'était assez clair, tout le monde savait, voilà, ça c'est l'ennemi, ça c'est le problème. Alors que là, ça semble un peu plus diffus, et donc on comme avec Occupy Wall Street, on commence à avoir une certaine angoisse, est-ce qu'on va pouvoir identifier des objectifs clairs autour duquel tout le monde peut se rallier pour faire des changements réels et concrets et matériels. À cela, je dirais que il y a des buts qui commencent à s'articuler. Et comme dans les années 60, le but général, c'est révolution et non pas réforme. Et là, je pense que c'est le conflit le plus important actuellement. Mm-hmm. On commence à dire, oui, définancement de la police, abolition de la police, peut-être moins de police, en tout cas. Mm-hmm. Hein, redistribution de ressources capitales dans les communautés qui sont hyper police, hyper surveillées, etc. Démilitarisation de la police. Mm-hmm. Tu as évoqué tout à l'heure l'image de ces groupes de militaires qui sont des polices, mais qui n'ont pas d'identification, qui n'ont pas d'uniforme qu'on reconnaît, etc. Tout cela, ce sont des buts ponctuels et possibles à réaliser, comme j'ai dit tout à l'heure, dans un contexte local, parce que la police n'est pas dirigée par Trump.
Oui, oui, c'est ça. Oui, ouais. Oui, c'est très important. Scott Sayer, sur cette multiplicité des buts et ce vide institutionnel auquel répondrait finalement le flou des revendications des manifestants entre Pam Diaye et George Packer, vous êtes de quel côté vous?
je les vois aller plutôt bien ensemble en fait.
Ah bon.
Je m'explique. Je pense que comme l'a souligné Kayama Glover, je pense. Il y a toujours une et probablement André Gerber aussi. Je me mélange dans ce mm-hmm. que je viens d'écouter. Il reste quand même une grande partie de la population américaine qui soutient Donald Trump.
Mais oui, bien sûr.
Et je pense que effectivement, comme a dit Kayama Glover, la question qui se pose aujourd'hui au sein de la manifestation, c'est cette question, c'est cette tension permanente entre révolution et réforme. Mmh. Ce qui me rend un peu.
Oui. Enfin, je voudrais.
Oui, oui, oui. J'allais faire le lien entre ces deux pensées. Je pense que il y a une focalisation d'attention aujourd'hui sur ce qui se passe au sein des manifs, ce qui est normal et bien. Par contre, il va falloir effectivement passer à une prochaine étape, qui est l'étape de l'action réelle, voilà. L'accomplissement d'un projet politique. Et pour cela, je pense que c'est très important de se rappeler que malheureusement, à mon sens, il y a une grande partie de la population qu'il faut tenter au moins de faire venir de son côté.
Oui, c'est une des choses qui frappe aussi, on va finir là-dessus, c'est l'absence de leader. Et même, je dirais, l'absence d'intellectuel organique. Tana Ishii-Coates, la star, l'héritier de James Baldwin, selon Toni Morrison, n'a pas dit un seul mot depuis le début, par exemple. Kayama Glover.
Tana Ishii-Coates, je ne sais pas ce qu'il fait. Je ne me demande pas forcément, en fait, non plus.
Non, bien sûr, mais c'est quand même étonnant. C'est quand même étonnant, c'est pas ce que je veux dire.
C'est étonnant, en effet, c'est étonnant.
Au-delà de sa propre... Au-delà de lui, le fait que, contrairement à ce qu'on voit dans le film, justement, I Am Not Your Negro, on n'a pas de grande figure.
Oui, oui. Mais justement, je crois que ce modèle n'est pas le seul, mm-hmm. et c'est peut-être pas le modèle pour le moment. Mm-hmm. C'est-à-dire que si on regarde le mouvement de Black Lives Matter, par exemple, oui, on a des figures de proue qu'on peut identifier, comme Alicia Garza, etc. Pour MeToo, on a Tawana Burke, etc. Certes, on a des figures de proue, mais le plus important dans les grands mouvements sociaux qui ont émergé dans ces dernières années, c'est justement leur diffusion dans différents créneaux locaux. Enfin, j'insiste sur le local, vous avez peut-être remarqué,
mm-hmm. oui.
mais le fait que ces mouvements se déclarent diffusent, ils ne veulent pas que tout l'intérêt, tout le charisme d'un seul personnage anime le mouvement, et c'est une responsabilisation de l'individu dans sa communauté idiosyncratique qui importe. Donc nous avons des cellules de Black Lives Matter, nous avons des cellules de MeToo, nous avons des cellules des mouvements sociaux, qui est un modèle qui est très différent du modèle des années 60, et je pense éventuellement beaucoup plus effectif dans un monde qui est diffus sur Twitter et sur les médias sociaux, etc. On est prêt à agir dans les contexte un peu moins ambitieux, enfin moins grand et large peut-être.
Ok, merci beaucoup.
He'd led to the slaughter like a sacrificial lamb. He said, wait a minute, boys, you know who I am. Of course we do, we know who you are. Then they blew off his...
Merci à tous les trois d'avoir été là. C'était Signe des Temps, une émission de Marc Wetzman assistée de Sandrine Chaperon, avec à la technique Jean-Guilain Meige et à la réalisation Luc-Jean Reynaud. Dans un instant, une histoire particulière.
We've come to collect.
gonna kill you with hatred.